France Inter.
Bonsoir Éric Delvaux, c'est parti pour deux heures d'information.
Eh bien bonsoir Mathieu Noël et bon week-end. Le 18-20 commence effectivement avec le journal présenté ce soir par Céline Asselot. Bonsoir Céline.
Bonsoir Éric, bonsoir à tous.
Avec à la une les PFAS accusés de perturber le développement du fœtus au cours de la grossesse.
Un nouvel effet néfaste qui vient s'ajouter à une liste déjà longue. Les polluants éternels altèrent la santé du placenta selon une nouvelle étude française, d'où un risque accru d'hypertension et de bébés de plus faible poids à la naissance. Toutes les précisions au début de ce journal.
Et vos autres titres, Céline.
L'Union européenne promet de réagir fermement aux droits de douane réciproques que Donald Trump veut mettre en place pour tous les échanges commerciaux avec les États-Unis. On verra que ce sont les pays en développement qui risquent surtout d'en pâtir. On évoquera aussi le bras de fer entre la Ligue de football professionnel et le diffuseur d'Azon. La justice se donne jusqu'à fin février pour trancher, ce qui n'arrange pas les affaires financières des clubs. 35 millions d'euros sont en jeu. Vous vous souvenez peut-être de l'opération PlaceNet XXL lancée par Gérald Darmanin contre le trafic de drogue. Eh bien, le dispositif est désormais remplacé par le plan Ville Sécurité renforcé de son successeur Bruno Retailleau. On verra ce que ça change dans les faits. Et puis rencontre à la fin de ce journal avec un photographe so british, au style un peu kitsch mais reconnu dans le monde entier. Le photographe Martin Parr a les honneurs d'un documentaire à découvrir à partir de ce soir. Et Alexis Demeyer l'a rencontré pour France Inter.
Et après votre journal, Céline, une semaine en France sera consacrée ce soir aux locations meublées touristiques avec un engouement qui empêche parfois les habitants locaux de trouver un logement pérenne. Ça a longtemps été le cas à Saint-Malo.
En 2014, on évoquait 333 Airbnb. En 2020, 3000. Si on n'avait rien fait, il n'y aurait plus d'habitants. En fait, ça ne faisait qu'augmenter.
Extrait du reportage de Guy Vanctil à suivre. Et puis dans la seconde heure, à partir de 19h20, dans le téléphone sonne, on s'intéressera à la pollution de l'air. Quelles conséquences sur notre santé? Vos questions, vos témoignages. Le standard vous attend, 01 45 24 7000.
France Inter.
Sur les poils anti-adhésifs, sur les vêtements imperméables, dans les emballages alimentaires, dans l'eau, dans les aliments que nous consommons, c'est désormais devenu quasiment impossible d'échapper aux PFAS et on découvre peu à peu l'ampleur de leurs effets sur notre santé. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
Plusieurs d'entre eux sont déjà classés, on le savait, un cancérogène possible. Mais une nouvelle étude montre que ces polluants éternels altèrent aussi le placenta des femmes enceintes et donc le développement du fœtus.
Oui, dans cette étude, 367 femmes ont été suivies pendant leur grossesse. 17 PFAS ont été dosés dans leur sang et à l'accouchement, le placenta a été pesé. Pourquoi ? Parce que le poids du placenta donne des indications sur son développement au cours de la grossesse. On savait déjà que l'exposition aux PFAS est associée à un petit poids de naissance, moins de 2,5 kg. Est-ce que le placenta précisément est en cause ? C'est ce que les chercheurs ont voulu savoir, explique Claire Philippa de l'INSERM. Le placenta est l'organe, rappelons-le, qui assure les échanges entre la mère et le bébé.
Les femmes qui présentaient des concentrations de PFAS les plus élevées par rapport à celles ayant des concentrations plus faibles présentaient effectivement des poids du placenta diminués. Il pourrait là encore avoir des conséquences pour la croissance du fœtus notamment.
L'étude a aussi permis d'analyser en détail les tissus du placenta par le biais de marqueurs.
Notre étude, ce qu'elle a montré, c'est des associations entre plusieurs PFAS étudiés de façon individuelle et des marqueurs histologiques qui suggéraient une moins bonne vascularisation du placenta et de moins bons échanges entre la mère et le fœtus. Des échanges d'oxygène, des échanges de nutriments et aussi l'élimination des déchets.
Quel impact ensuite pour la santé de l'enfant? C'est toute la question. Alors ces enfants nés de cette cohorte baptisée CEPAGE ont à ce jour 8 ans. Les chercheurs suivent leur croissance, leur neurodéveloppement et leur système respiratoire pour vérifier qu'ils ne développeront pas de maladies spécifiques, car on le sait, les PFAS peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires. Heureusement à ce jour, tous ces enfants vont bien.
Merci Sophie Bécherel, service sciences, santé, environnement, les PFAS, sujet de santé publique majeur, on vient de l'entendre, mais aussi casse-tête économique qui doit payer la dépollution. Hier, la régie publicitaire Eau de Paris a dit vouloir demander aux industriels de payer la décontamination de l'eau potable. Le coût de plus en plus important est aujourd'hui supporté par les habitants de la ville.
Volodymyr Zelensky est prêt à rencontrer Vladimir Poutine, mais à certaines conditions.
Oui, cette rencontre ne sera possible que si le plan commun est fixé au préalable entre les alliés de Kiev, dit le président ukrainien qui rencontre en ce moment J.D. Vance, le vice-président américain, en marge de la conférence internationale sur la sécurité de Munich. Et J.D. Vance qui en a profité d'ailleurs pour faire la leçon lors de son discours aux Européens qui doivent faire plus, dit-il, pour leur propre sécurité, mais qui assure aussi que les 27 ont bien sûr toute leur place à la table des négociations sur l'Ukraine. Manière de répondre aux inquiétudes suscité par le coup de fil surprise entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Emmanuel Macron avait évoqué dans une interview le risque d'une paix qui serait une capitulation. L'Union européenne qui s'inquiète aussi des déclarations de Donald Trump concernant une autre guerre, la guerre commerciale. Bruxelles promet de réagir fermement et immédiatement si Washington met en place des droits de douane réciproques, parlant d'obstacles injustifiés au commerce libre et équitable. Mais ce n'est pas en Europe que cette menace suscite le plus d'inquiétude. Nathanaël Charbonnier, ce sont les pays en développement qui risquent de pâtir le plus fortement de ce nouveau système imposé par les États-Unis.
Le concept est simple, si vous taxez de X% les produits américains, eh bien les États-Unis taxeront de X% vos produits, et cela sans tenir compte des spécificités liées notamment aux économies des plus fragiles, comme le Brésil, la Malaisie, le Vietnam ou encore l'Inde. Et qu'importe si cela va à l'encontre des règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et que cela déclenche une guerre commerciale. À chaque fois d'ailleurs, Donald Trump fonctionne de la même façon. C'est un peu la politique du coup de pied dans la fourmilière. Il menace avant de se mettre autour de la table des négociations. Ce fut le cas encore dernièrement avec l'épisode de l'acier qu'il a opposé au Canada, au Mexique et à la Corée du Sud. Avec les droits réciproques, même approche, avec toutefois un impact différent, notamment pour les pays les plus pauvres, qui exportent parfois plus de 40% de leur production vers les États-Unis et dont la survie économique dépend de ces exportations.
Précision de Nathanaël Charbonnier. Au Proche-Orient, 3 nouveaux otages israéliens doivent être libérés demain par le Hamas. Après plusieurs jours d'incertitude, leurs noms ont été communiqués aux autorités israéliennes. La Croix-Rouge se dit très inquiète sur l'état de santé des personnes encore retenues dans la bande de Gaza. Et puis en République démocratique du Congo, le M23 a fait une prise stratégique. Le groupe rebelle, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de l'aéroport de Bukavu, ce qui devrait lui faciliter la prise de contrôle de cette grande ville de l'est de la RDC. On retrouvera notre envoyé spécial Omar Waman dans le journal de 19h.
Bruno Retailleau en déplacement aujourd'hui à Grenoble.
Oui, au lendemain de cette explosion dans un bar qui a blessé une quinzaine de personnes, c'est une grenade à fragmentation qui a été lancée. Le ministre de l'Intérieur parle d'une opération criminelle inédite, même si dans les faits des précédents ont été recensés ces dernières années. La police recherche en tout cas toujours activement l'auteur de l'attaque. Bruno Retailleau lui a profité de ce déplacement qui était dans son agenda depuis plusieurs jours pour annoncer son grand plan de sécurisation des villes. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Et ça s'appelle le plan VSR.
Oui, une doctrine labellisée Bruno Retailleau, 25 villes concernées, qui fait donc suite aux opérations Place Nette de son prédécesseur Gérald Darmanin. Là, l'objectif étant justement que les places ne se repeuplent de points de deal, comme on a pu le voir régulièrement ces derniers mois, et son corollaire d'actes violents, de règlements de comptes, de raquettes et menaces sur les commerces voisins, sans parler de la corruption. Une stratégie, je cite, à double lame, cibler les caïds, mais aussi les petites mains des trafics qui se livrent à d'autres activités de délinquance quotidienne, vol à main armée, extorsion. Bruno Retailleau n'hésite pas à cibler les délits commis par des personnes en situation irrégulière, assumant une traque des clandestins avec usage de drones. Pour la première fois, un ministre de l'Intérieur souhaite mettre les compétences de la DGSI pour obtenir du renseignement criminel, pour déterminer des cibles prioritaires, briser les circuits d'approvisionnement, avec création d'un état-major H24 comme pour le terrorisme, systématiser l'intervention des compagnies de CRS et des escadrons de gendarmes mobiles pour geler l'activité des narcotrafiquants, généralisée en coopération avec Bercy. Enfin, les opérations anti-fraude de commerce qui servent d'abord de tirelire pour le blanchiment de l'argent de la drogue.
Emmanuel Leclerc, merci beaucoup. Service police-justice de France Inter. François Bayrou doit rencontrer demain à Pau l'association des victimes dans l'affaire Notre-Dame de Bétarame, du nom de ce collège-lycée des Pyrénées-Atlantiques. Information de nos confrères ici, Berne Bigorre. Une enquête a été ouverte après une centaine de plaintes pour violence physique, agression sexuelle et viol. Le Premier ministre avait assuré n'en avoir jamais entendu parler, ce que contestent certains témoins. La France Insoumise dénonce un scandale d'État. Il était poursuivi pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Le père d'Anaïs a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lyon. L'homme a été reconnu coupable d'avoir enlevé sa fille de 9 ans qui était placée dans un foyer. La fillette avait été ensuite tuée par sa mère qui avait retourné l'arme contre elle. Un rassemblement à Roubaix ce vendredi devant le siège historique de la Redoute. Ce sont les salariés salariés de l'entreprise qui protestent contre l'externalisation d'une partie des activités logistiques. Un peu plus de 300 employés vont passer dans le giron d'une entreprise sous-traitante. Et les syndicats s'inquiètent, Sophie Morland, pour leurs conditions de travail. Ils dénoncent une trahison de la part d'une entreprise qui se veut familiale.
La redoute, c'est nous, Martel, ses salariés. La redoute sur les colis qu'ils préparent. La redoute propriétaire des murs où ils continuent de travailler, mais qui ne sera plus leur employeur. Des salariés partagés comme Maria entre larmes et colère.
Moi, j'ai 36 ans de redoute où j'ai donné le meilleur de moi-même à cette redoute. Et aujourd'hui, voilà le remerciement. Et ça, c'est non, non et non.
Une colère compréhensible pour Smaïl Bella, délégué syndical central CGT, alors que pendant des mois, les rumeurs sur ce transfert étaient systématiquement démenties par la direction.
Il y a une violence quand même. Déjà, notre convention, elle n'est pas énorme, mais la convention transport, c'est encore pire. C'est notamment 5 jours de carence en cas d'arrêt maladie. Bah, les salariés vont plus se soigner. Donc on est vraiment sur des magouilles dégueulasses.
Ce qui ne passe pas notamment, c'est la somme de 44 millions qui vient d'être récupérée par la direction. Une fiducie obtenue lors du conflit de 2014. Ce fonds réservé aux mesures sociales vient juste d'arriver à expiration. Et ce n'est pas un hasard pour Magali Guérand de Force Ouvrière.
En 2014, on s'est tous battus pour que la redoute tienne le coup. Pinault nous a donné de l'argent. Et au final, une fois qu'ils ont eu la fiducie, ils l'ont eu sur leur compte le 1er février. Quelques jours après, nous ont annoncé comme quoi ils nous débarrassaient de nous. C'est comme une trahison et ça, les salariés le vivent très mal.
Les salariés de la redoute ont été rejoints dans la manifestation par ceux d'Idée Logistique venus leur apporter leur soutien.
Reportage ici nord de Sophie Morland. Eux vont devoir attendre encore pour connaître leur sort et chaque jour d'incertitude plombe encore un peu plus les comptes. Les clubs de football vont patienter jusqu'au 28 février pour connaître la décision du tribunal de commerce concernant le litige entre la Ligue et le diffuseur d'Azone. Il s'agit pourtant d'une procédure d'urgence car la plateforme britannique menace de ne pas verser les 35 millions d'euros de droits télé dus d'ici la fin du mois. Mais le tribunal Emma Sarango a décidé de prendre le temps de la réflexion.
14 jours, c'est long, extrêmement long. Certains clubs attendent le versement le jour même, la minute même, avait d'ailleurs fait valoir devant le tribunal l'un des avocats de la LFP sans être entendu. Alors, la Ligue n'a pas le choix, elle ne peut pas attendre la décision de justice. Elle va piocher dans son fonds de réserve une enveloppe de 100 millions d'euros destinée aux urgences. Alors, va-t-elle débloquer immédiatement le paiement pour tous les clubs? Ça n'est pas précisé, peut-être d'abord les plus en difficulté, car tous ne sont pas dans la même situation, reconnaissait tout à l'heure Olivier étant le président du LOSC, l'un des plus gros budgets de Ligue 1.
Je sais que la situation économique est très tendue dans un certain nombre de clubs. On a besoin d'une issue positive. Je ne suis pas juge, je ne suis pas au tribunal de commerce, donc ce n'est pas moi de prendre la décision. Néanmoins, il me semble qu'il y a un contrat qui existe, qui a été délivré par les clubs. Donc je ne suis pas forcément très inquiet par rapport à l'issue de cette procédure, mais plus par rapport à l'urgence pour certains clubs, effectivement, de faire entrer de la trésorerie.
La LFP doit se réunir lundi afin d'acter la répartition des fonds d'urgence débloqués, en espérant évidemment obtenir gain de cause et recevoir le 28 février les 35 millions d'euros de la part de son diffuseur d'Azone.
Emma Sarango, et c'est dans ce contexte de forte inquiétude que l'UNFP, le syndicat français des joueurs de foot, a rendu public ce chiffre record. Près de 95% des joueurs adhèrent désormais à l'organisation et c'est des jamais vus depuis la création du syndicat.
Il est l'une des stars mondiales de la photographie et pourtant, aucun documentaire ne lui avait encore été consacré.
Erreur désormais réparée puisque le Britannique Martin Parr sera à l'honneur ce soir sur France 5 dans un film qui retrace sa carrière et qui revient sur son style unique avec ses fêtes foraines, ses couleurs criardes. Un univers so british que l'intéressé raconte au micro d'Alexis de Meyer.
I can't stop taking pictures.
À 72 ans et malgré son déambulateur, Martin Parr continue d'arpenter les stations balnéaires britanniques avec un sourire au coin des lèvres. Le documentariste Lee Shulman filme cette légende de la photo en action, nous permettant de mieux comprendre ses inspirations. Car Martin Parr a bien inventé un style à part entière.
Je pense que j'ai vraiment eu le déclic en passant du noir et blanc à la couleur au début des années 80. C'est là où j'ai développé cette palette que j'explore encore aujourd'hui. Une gamme de couleurs inspirée des photos publicitaires mais que j'ai appliquée à un travail documentaire. C'est vrai que j'adore les couleurs vives, elles me conviennent totalement. J'aime montrer des choses kitsch, quitte à grossir le trait pour créer une sorte de fiction à partir de la réalité qu'on a sous nos yeux.
Et en immortalisant la classe ouvrière et l'industrie du divertissement, Martin Parr a construit une œuvre très engagée.
Je pense que c'est un travail très politique, mais sans l'être ouvertement. Ça l'est uniquement si vous le recherchez. Mais je suis clairement un photographe de gauche et je pense que c'est le cas de tous mes confrères qui font un travail similaire. Il faut aimer les gens, il faut aimer le peuple. Sans ça, impossible d'être un bon photographe du réel.
Le documentaire revient d'ailleurs d'ailleurs sur son arrivée mouvementée dans la prestigieuse agence Magnum, preuve que son travail iconoclaste ne laisse personne indifférent.
Le documentaire s'appelle « I am Martine Parr ». C'est ce soir, 23h sur France 5 et dès maintenant, bien sûr, sur la plateforme France.tv. Et puis c'est une manière, dit la mairie de Paris, d'honorer un musicien qui avait fait de la capitale française le lieu de ses dernières inspirations. Une passerelle Jim Morrison sera bientôt inaugurée près de la place de la Bastille, non loin donc du cimetière du Père-Lachaise, où le chanteur des Doors repose depuis 1971.
Ouais, la tombe de Jim Morrison qui va donc participer du tourisme funéraire international.
Pèlerinage.
En pèlerinage dans la bien nommée rue du Repos, dans le prolongement de ce cimetière du Père Lachaise. C'était le journal de Céline Asselot. Le temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Encore doux le temps demain, au sud en tout cas, ce sera plus froid au nord.
Oui, on aura toujours des gelées le matin sur le nord, sur l'est du pays. L'après-midi, pas plus de 3 à 8 degrés sur le nord jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais 12 à 15 degrés de l'Aquitaine à la Méditerranée et même jusqu'à 20 degrés au Pays Basque, là c'est printanier.
Avec donc du soleil demain, mais aussi pas mal de nuages sur le nord-ouest.
De la Bretagne au Pas-de-Calais, on aura un voile nuageux qui sera épais et qui masquera le plus souvent le soleil. De la Vendée et des Charentes vers le bassin parisien et l'est des Hauts-de-France, une matinée agréable avec un soleil légèrement voilé. Les nuages seront de plus en plus nombreux l'après-midi et puis en allant vers le sud et l'est, là, du soleil. Mais des grisailles matinales tout de même au pied des Pyrénées et sur les régions de l'est où elles seront souvent givrantes, donc prudence sur les routes. Et puis un petit mot pour dimanche, petite hausse des températures et un soleil souvent très voilé, surtout sur l'ouest et le sud.
Du voile,
c'est agréable quand même.
Agréable quand même dans les prévisions d'Élodie Calac.
France Inter présente Oli. O-L-I. Le premier podcast d'histoire pour enfants à partir de 5 ans. Et ce mois-ci.
Bonjour, je suis Frédéric Sigrist et je vais vous raconter l'histoire du super-héros du dimanche.
Une autre.
Bonjour, je suis Luciole et je vais vous raconter l'histoire de Léon et ses moutons.
Déjà plus d'une centaine d'histoires originales à télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
Et merci d'avoir choisi France Inter, 18h17.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir aux locations meublées touristiques sur les plateformes dédiées. Ça a eu payé, comme disait Fernand Reynaud. Le succès a été tel qu'il a même fallu imaginer une nouvelle loi dite anti-Airbnb pour limiter ce type de location touristique dans des villes où les habitants permanents avaient de plus en plus de mal à trouver un logement pérenne. Et bonsoir Yaël Gauze.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Vous nous direz tout à l'heure à quel point cette loi a été l'aboutissement d'un long combat politique.
Oui, de David contre Goliath, pour reprendre l'expression de la députée Anaïg Lemeur, co-rapporteuse du texte. L'histoire d'une reprise en main poussée par les élus locaux, pour les élus locaux.
À tout à l'heure Yaël. Et on verra donc comment cette loi de novembre 2024 a changé la donne. On posera la question à nos invités ce soir. Et puis nous nous intéresserons à un autre modèle de location touristique. D'ailleurs, est-ce encore de la location ? Quand on choisit d'échanger son propre logement contre un autre, le temps d'une escapade touristique, location meublée touristique de courte durée, avantages et inconvénients, c'est le thème ce soir. On en parle jusqu'à 19h.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage. Bonsoir Malika Perrot.
Bonsoir.
Vous êtes coprésidente d'ALDA, cette association européenne pour la démocratie locale. Quelles sont les difficultés aujourd'hui encore pour trouver un logement sur du long terme dans des villes qui accueillent des touristes et qui sont préemptées souvent par ces agences, ces plateformes de location saisonnière?
Ouais, alors moi je peux vous parler de l'exemple Pays Basque.
Bah oui, parce que vous êtes basée au Pays
Basque.
C'est
là où ALDA agit exactement. Alors je ne sais pas si vous savez le nombre de locations à l'année qu'il y a dans le parc privé au Pays Basque. Il y en a 44 900.
Oh bah oui.
Alors, dans l'absolu, ça ne parle pas trop. Je vais vous comparer avec les chiffres qu'a estimé la communauté d'agglomération Pays Basque il y a 2 ans sur les meublés de tourisme permanent, donc type Airbnb. Il y en avait 10 400. Imaginez, 44 900 logements à l'année et 10 400. Donc c'est énorme. C'est, en fait, il y a une vraie capture des logements à l'année pour les habitants permanents qui sont transformés en logements de type Airbnb. En plus, souvent, les logements de type Airbnb, c'est des petits logements, donc des logements qui étaient habité avant par des mères isolées, par des retraités, par des étudiants, par des milieux populaires, et qui sont transformés en Airbnb à l'année. Et donc, ça a des conséquences évidemment individuelles, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour se loger, c'est extrêmement compliqué. On est obligé d'aller toujours plus loin de son lieu de travail, de son cercle familial. Ça augmente évidemment les transports, mais ça a aussi des conséquences collectives, parce que une multiplication des Airbnb dans un quartier, c'est quoi ? C'est des commerces qui disparaissent, parce que du commerce de proximité qui n'arrive plus à trouver des clients. Des écoles qui ferment, c'est aussi des immeubles sans voisins. Nous, on a une petite mamie de 80 ans qui nous disait « mais c'est horrible, dans ma copropriété, il n'y a que des Airbnb et je suis seule et j'ai plus cette solidarité ». Donc en fait, la transformation de logement, la vampirisation par des logiques qui sont en fait de la marchandisation financière, de la financiarisation du logement, ça a des conséquences individuelles mais aussi sociales qui sont vraiment très importantes à l'échelle de territoires entiers.
L'association ALDA a contribué à faire émerger la loi dite anti-Airbnb. Quel a été votre rôle précisément ? D'un lanceur d'alerte peut-être ?
Oui, d'un lanceur d'alerte dans le sens où nous, on a vraiment documenté ce qui se passait au Pays Basque, mais qui n'est pas propre au Pays Basque. Hein. Ça se passe dans énormément de petites villes.
On le verra ce soir, tout à l'heure à Saint-Malo.
Voilà, de communes. Il y a même un collectif qui s'appelle le Collectif National des Habitants Permanents qui réunit toutes ces coalitions d'acteurs qui se mobilisent. Et donc le travail justement collectif des associations, c'est de pointer du doigt, de chiffrer, de documenter les impacts et puis d'appeler le législateur à aller plus loin. Les communes aussi, qui sont parfois très volontaristes. Dans le cas du Pays Basque, la communauté d'agglomération a mis en place un règlement de compensation qui est extrêmement ambitieux. Et là, aujourd'hui, on dispose d'un nouvel outil avec cette loi au niveau national.
Désormais, effectivement, les maires peuvent imposer aux propriétaires un nombre limité de journées de location dans l'année, non plus 120, comme c'était le cas avant, mais seulement 90 journées de location dans l'année. Est-ce qu'on sait si ça a dissuadé vraiment quelques propriétaires, ça ? Si on prend votre exemple, on va rester au Pays Basque par exemple. Est-ce que des propriétaires ont dit finalement moi je préfère me retirer, ce n'est plus rentable?
Au Pays Basque, on avait la chance depuis 2 ans, on va fêter l'anniversaire là, d'avoir un règlement de compensation au niveau local sur la zone tendue du Pays Basque dont on voit déjà les premiers effets. C'est pour ça qu'on pense que la loi Etchanis Lemeur, elle va être prometteuse. Dès qu'on régule, il y a des impacts. Là on voit les premiers effets, c'est-à-dire qu'on voit des logements revenir dans le parc locatif privé, donc bénéficier à la population. Et en plus, je vous ai parlé des impacts sociaux, mais il y en a d'autres, et on en parle beaucoup en ce moment, c'est les impacts climatiques et écologiques, parce que on sait qu'il y a une crise du logement, donc il faut produire plus de logements, mais là, on peut récupérer des logements sans avoir à bétonner, à artificialiser davantage.
Airbnb disait que cette loi n'aurait que peu d'impact notable sur ses activités. Vous êtes moins optimiste que eux ?
Alors, peut-être qu'ils essayent de s'auto-convaincre, mais déjà, c'est une première étape. La loi, elle n'est pas parfaite. D'ailleurs, ils sont montés au créneau, c'est bien qu'ils s'inquiétaient. Il y a des mesures qui ont été affaiblies, mais c'est déjà un premier pas. Après, évidemment, par exemple, sur la question de l'avantage fiscal, nous, on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut qu'il y ait un vrai renversement de la fiscalité, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est pas que les propriétaires sont tous en recherche absolue de profit. C'est aussi que la réalité, c'est que les abattements fiscaux sont plus avantageux pour la location saisonnière que pour la location à l'année. Alors cette loi, elle permet d'améliorer un peu les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avantage fiscal des meublés de tourisme est réduit. On est passé de 71% à 50% pour les meublés de tourisme classés. Attention, se classer en meublé de tourisme, c'est facile. Enfin, c'est pas des procédures trop lourdes. Et de 50% à 30% des meublés de tourisme non classés. Bon, là, on rentre dans le technique, mais aujourd'hui, pour que les gens se donnent une idée de comparaison, 30%, c'est le même avantage que les logements à l'année. Donc, ça veut dire que pour les meublés de tourisme non classés, il y a le même avantage fiscal aujourd'hui que pour les logements à l'année. Mais en fait, il faut un renversement de la logique. Aujourd'hui, il faut que le législateur il favorise ceux qui veulent bien louer des logements à l'année, parce qu'on en a besoin pour résoudre la crise du logement qui est particulièrement forte en France.
On va le voir tout à l'heure avec Yaël Gauz. Ce rééquilibrage ne peut se faire dans les communes qu'avec les élus locaux. Quels sont vos rapports en tant que lanceur d'alerte, en tant qu'association dédiée à cette association européenne pour la démocratie locale? Quels sont vos rapports avec les élus locaux à Biarritz?
Alors, nous, c'est donc à l'échelle de tout le Pays Basque, et je pense que ce qui s'est passé au Pays Basque est assez exemplaire, dans le sens où il y a vraiment une mobilisation de la société civile extrêmement forte. Il y a eu une manifestation de 8000 personnes pour le droit au logement. C'est assez rare de voir une manifestation d'autant de monde sur la question spécifique du logement. Et il y a eu un vrai travail volontariste de certains élus pour mettre en place un règlement de compensation qui est assez ambitieux. Et avec des élus qui sont de bords différents, mais justement parce que la crise du logement est telle qu'elle pose le problème, elle pose un vrai problème à tous les élus, parce que en fait, les gens n'arrivent plus à se loger. Donc là, nous, en l'occurrence, particulièrement sur la côte, parce qu'il n'y a plus de logements disponibles. Et ça, aucun maire, qu'il soit de droite, de gauche, du centre, ne trouve ça satisfaisant.
Et vous vous êtes beaucoup mobilisé, mais ce n'est pas le thème de la soirée ce soir, sur l'encadrement des loyers. Mais là, on ne parle plus seulement des loyers saisonniers. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci Malika Perrot, coprésidente d'ALDA, cette association européenne pour la démocratie locale. Pardon.
C'est surtout c'est une association qui veut dire changer, qui est une association de défense des droits des habitants des quartiers des milieux populaires au Pays Basque.
Eh bien, merci de l'avoir précisé. Ouais. Quand les locations meublées touristiques rendent introuvables les locations à l'année, illustration en reportage, nous partons à Saint-Malo, car il y a 6 ans, Saint-Malo était la ville où il y avait le plus de Airbnb par habitant. Saint-Malo est même devenue la première à prendre des mesures pour restreindre les locations saisonnières. À l'initiative de cette habitante, elle s'appelle Véronique Deschamps et son association Saint-Malo, j'y vis. Elle a donc remué ciel et terre pour pouvoir continuer de vivre à Saint-Malo. Reportage de Guy Vanctil.
Je crois que c'est une belle journée en plus.
Oui, on a de la chance. De toute façon, Saint-Malo vaut le coup par tous les temps. C'est une ville de caractère.
Comme vous.
Je suis juste une citoyenne, je m'appelle Véronique. Moi, il se trouve que ça fait 46 ans que je vis ici. J'aime la ville où je vis et j'ai envie d'avoir des voisins plutôt que des valises à roulettes, c'est tout.
Les locations touristiques de courte durée, type Airbnb, Abritel ou Booking, ont explosé en Bretagne.
Plus de 3000 logements malouins sont à disposition des vacanciers. Conséquence, la cité intramuros a perdu plus d'un tiers de ses habitants depuis 2016.
On va à droite, vous faites un petit tour, d'accord?
Voilà, la rue du Pélicot, sûrement une de mes rues préférées.
C'est une toute petite rue très jolie, en dénivelé, avec des vieilles lanternes au-dessus.
Dans ces ruelles qui représentent Saint-Malo tel qu'il l'était avant.
La maison d'à côté dit 1676 sur le pas de la porte.
Voilà, mais ce que vous allez pouvoir voir, c'est cet adorable petit objet.
Écrit Master Lock.
C'est une petite boîte, en fait, qui permet aux visiteurs de courte durée de prendre possession des lieux sans avoir aucun contact.
Là, c'est carrément, il y en a 4. Et 10 mètres après, au numéro 13, pareil, un petit boîtier où les touristes peuvent récupérer les clés. Ces boîtes-là, pour vous, c'est vraiment le symbole de tout ce qui ne va pas dans le surtourisme, quoi.
En 2014, on évoquait 333 Airbnb. En 2020, 3000. Si on n'avait rien fait, il n'y aurait plus d'habitants, quoi, en fait. Ça ne faisait qu'augmenter.
Et c'est pour ça que le collectif, vous l'avez appelé...
Saint-Malo, j'y vis. C'est devenu une association. Pour moi, c'est ma ville. Enfin, je veux dire, moi, c'est ici, c'est mon village.
Hugo.
Enfin, ça, c'est agréable, justement, c'est de croiser des gens qui vivent dans la ville avec le sourire.
Et... on est petits à Saint-Malo. Voilà,
tout le monde se connaît, non?
Ouais, on croise toujours des gens qu'on connaît dans la rue. Alors, en saison, quand il y a plus de monde, ça devient plus... Ah, quelqu'un qu'on connaît. Mais l'hiver, il y a une petite vie de... village un petit peu.
Et on se demandait combien, vous pensez, il y a d'habitants à l'année qui sont en hiver, là dans la vieille ville.
Alors, je sais que ça a baissé. Hein.
700.
700, ouais. C'était 1500 il y a encore une dizaine d'années. Mais ça se vide, on voit que ça se vide. J'habite ici depuis 2013, intramuros. Et j'ai vu cette évolution où, quand je suis arrivé, il y avait 6 ou 7 personnes à l'année. Aujourd'hui, je suis seul et j'ai un voisin au-dessus.
Et le reste, c'est quoi?
C'est des locations, donc avec des gens qui arrivent, en fait, le samedi, qui cherchent la boîte à clé, d'ailleurs. Je suis... conseiller en boîte à clé sur Intramuros, si jamais vous voulez me joindre. Les samedis, souvent, parce que le samedi, c'est les arrivées et les départs, on entend ce bruit de valises sur les pavés.
Le bruit des valises à roulettes, pour moi, c'est le bruit de l'indifférence.
Saint-Malo a été la première ville à prendre des mesures fortes pour limiter ce développement et la flambée des prix de l'immobilier.
À l'origine de ce collectif, Véronique Deschamps, qui vit dans cet immeuble depuis près de 30 ans, a vu sa vie changer en 2016, quand l'appartement voisin a été racheté pour être mis en ligne sur ses plateformes.
Donc là, on arrive là où tout a commencé.
La maison La Psalette, merci de prendre soin de cette vieille porte d'entrée.
Du 17e, avec un petit angelot sur la porte. 80% de Saint-Malo a été détruit. C'est la seule maison qui n'a pas été détruite dans le quartier. Cette maison a été épargnée. Donc, c'est pas pour servir de hall de gare, quoi. Quand on rentre là, il faut quand même apprécier les lieux et en prenant soin les uns des autres, ce qui n'a pas été le cas.
C'était 2016, ça, 2016. Que c'est arrivé ici.
J'ai pas envie de repenser à cette époque parce que c'est vrai que ça a été très compliqué à vivre au quotidien. Parce que, en fait, cette maison s'est transformée en hôtel improvisé. Tous les trois jours, vous avez un changement de voisin.
Ça défile.
C'est un mini déménagement tous les trois jours. Sans service d'accueil, comme dans les hôtels, sans normes à respecter, sans mesures de sécurité. Enfin, moi, à quel moment on m'a demandé de vivre ça? J'ai même vu des agents de conciergerie, quand je descendais ou je rentrais dans mon immeuble, pensant que je faisais partie du groupe de touristes.
Véronique Deschamps a été une ardente combattante pour la gestion des Airbnb sur Saint-Malo Intramuros.
Objectif, apaiser la colère des Malouins et redonner vie à cette ville hors période de tourisme.
Et on dit ça en passant des boutiques qui vendent médailles souvenirs, d'ailleurs, sets de table Saint-Malo, cartes postales.
Voilà.
Vous appelez ça la Mont-Saint-Michelisation.
Ben voilà, quand vous commencez à voir, comme notamment là-bas, une biscuiterie qui s'installe à la place d'une pharmacie, là ça commence à vous fendre le cœur parce que vous savez que ce commerce n'est pas destiné à l'habitant. Ce sont les habitants qui disparaissent.
C'est ça. Vous êtes devenue la lanceuse d'alerte. Ça fait un effet boule de neige, y compris législatif. Vous avez vraiment lancé dans tous les sens. Vous avez
fait dans tous les sens, oui, parce que je ne savais pas du tout comment faire.
Vous avez fait des tribunes dans la presse. Vous avez écrit aux députés. Vous avez écrit à la mairie. Vous avez même
écrit au président de la République, au ministère concerné.
Vous leur disiez quoi dans vos lettres?
De se pencher sur ce problème qui finissait par chasser les habitants de leur ville, de légiférer. En fait, il n'y avait rien, aucune loi. Pour moi, c'était non-assistance à population en danger. Comme là aussi, c'est pareil.
C'est dingue. Mais qu'est-ce que vous mangez comme biscuits et comme gâteaux à Saint-Malo? Tous les 10 mètres, il y a des boutiques de biscuits.
Voilà, l'habitant est adepte de la biscuiterie et des bols bretons.
Est-ce que vous en avez un bol à votre nom?
Absolument pas, non. Non, j'en veux pas.
De la difficulté de trouver un logement pérenne à Saint-Malo quand les locations touristiques tuent le marché. Voilà donc pour ce reportage de Give Anctil. Cela dit, pour ceux qui veulent changer d'air le temps d'une escapade de courte durée, il n'y a pas que la location, ça peut être aussi une sorte de troc, un échange de bons procédés. Je te laisse mon appartement ou ma maison et en contrepartie, j'habite dans ton logement. C'est la vocation de la plateforme Home Exchange. Nous sommes en ligne avec l'un de ses cofondateurs, Charles-Édouard Girard, bonsoir.
Bonsoir.
Cette solution alternative basée sur l'échange de biens, ça fonctionne comment ?
C'est très simple, comme vous l'avez dit. En fait, pendant les vacances, on va aller chez une personne pendant qu'elle va venir chez vous. Et nous, on a rajouté, pour simplifier, parce que c'était un petit peu compliqué, un système de points qui va permettre de faire des échanges, on va dire, un peu plus circulaires. C'est-à-dire, je vais venir chez vous, je vais vous donner des points que vous allez pouvoir utiliser pour aller chez quelqu'un d'autre.
On ne paye pas de location à proprement dit ?
Non, c'est vraiment le seul frais que vous avez, c'est auprès de la plateforme. Donc, c'est un abonnement qui est de 160 euros et vous pouvez faire autant d'échanges que vous voulez. Ça différencie beaucoup de la location pour sa gratuité. Et c'est de l'hospitalité, c'est plus de la location. C'est vraiment très différent dans les rapports humains. Vous en parliez juste avant, il y a vraiment des rapports humains. Là.
Justement, on laisse tout de même sa déco, ses effets personnels dans les penderies. On habite vraiment chez l'autre. Ça exige tout de même plus qu'ailleurs peut-être un minimum de confiance, non ?
Oui. Alors, c'est ce que vous disiez, c'est que c'est dans la grande majorité, c'est à plus de 80%, ce sont des résidences principales dans lesquelles on va aller vivre chez les gens. Et en fait, la confiance est très naturelle pour deux raisons principalement. C'est que vous-même, vous êtes obligé de faire de l'échange de maison pour pouvoir participer à la plateforme et que naturellement, comme vous en faites, vous allez faire attention aux autres. Et puis, puisque vous êtes invité, eh ben, les gens, quand ils sont invités, font beaucoup plus attention quand ils payent les choses. Ils n'ont pas ce rapport aux choses en disant « j'ai payé, c'est pas grave ce qui se passe ». Ils se sentent vraiment invités. Quand vous allez, vous, chez vos amis, ben, vous vous rendez compte que vous êtes invité, vous y faites attention.
Et donc, vous n'avez pas d'exemple de dégradation tel que l'on a pu en entendre parler sur les plateformes de location saisonnière?
Non, c'est quoi, je voudrais pas... pour être totalement transparent, on en a vraiment très très peu. Ouais. C'est moins de 1% par an, parce que tout simplement, et c'est des dégâts qui ne sont pas des dégâts provoqués, c'est un autre rapport. Quand on va chez les gens, on fait attention, ça arrive de casser un verre chez quelqu'un, mais on ne va pas jeter le verre sur le mur, on ne va pas faire des grandes fêtes. Et d'une certaine façon, aussi, on choisit un peu les personnes que l'on a, c'est-à-dire que souvent, vous avez ce rapport humain, ce n'est pas juste une carte bleue qui va réserver, c'est des gens qui vont se parler, et ben, on est beaucoup plus rassurés et on sait, comme on les connaît, comme on leur a parlé, ben, on va faire attention à ce qu'il y a chez eux.
Et donc un échange de maison ou d'appartement, y compris jusqu'à l'étranger ?
Alors, il faut savoir que l'échange maison représente un peu ce que font les Français dans le voyage, c'est-à-dire qu'en moyenne, par exemple, les Français, ils voyagent à 60%, on va dire, à peu près en France. On a les mêmes choses, c'est-à-dire que grande majorité, les gens, ils vont quand même en local, hein, ça reste très cher de partir à l'autre bout du monde, voilà. Et donc, c'est ce qui se passe pour l'échange de maison. Nous, vous pouvez faire des échanges dans plus de 40 pays, mais en grande majorité, les gens vont plutôt aller, quand ils sont dans le nord, aller dans le sud de la France, aller en Bretagne, c'est très classique, voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui représente un peu les typologies des échangeurs. Ce sont des gens avec des maisons, des appartements. Il n'y a pas besoin d'avoir une maison extraordinaire, c'est même l'inverse. Il y a beaucoup de gens, chacun trouve une maison qui va lui ressembler dans la plateforme.
Et est-ce que les locataires également ont le droit d'échanger leur logement ?
Oui, alors logiquement, ils ont un droit d'utilisation de leur bien, donc ils ont le droit d'échanger leur logement, à l'inverse de la location, où là, vous n'avez pas le droit de commercialiser le bien. Voilà, on demande toujours, on dit toujours aux gens, faites attention, demandez à votre propriétaire, parce que même si vous avez ce droit, ça n'empêche pas que parfois, il y ait des susceptibilités.
Voilà, les échanges d'appartements, le troc d'appartements ou de maisons, c'est aussi une solution alternative pour une escapade. Merci beaucoup de ce témoignage, Charles-Édouard Girard, cofondateur donc de Home Exchange. Vous écoutez Une semaine en France avec Juliette Gou à la réalisation, rédaction en chef Frédéric Barrère. Un grand merci à Julie Dateil qui m'a aidé à préparer cette émission. On va poursuivre ce débat sur les locations meublées de courte durée. Ce sera après le jazz de ce groupe canadien de Toronto. Voici Bad Bad Not Good sur Inter. Somos ou não somos poeira. Bad, bad, not good, groupe de jazz canadien. Un grand merci à Djoubaka pour la programmation musicale. Grand merci également ce soir à la régie. Derrière la vitre, il y a à la technique Florian de Rimini, Clément Berman ou encore Guillaume Ficheux. Merci à eux.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France, on poursuit ce débat sur les locations meublées touristiques. Avec vous, Jean-Claude Drian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris, université Paris-Est Créteil. On a vu que les plateformes de location meublée touristique avaient déséquilibré donc ce marché de la location de maisons ou d'appartements au point de créer une loi dite anti-Airbnb. Qu'est-ce que l'on reproche finalement à cette plateforme leader mondiale de la location saisonnière?
Alors, on dit Airbnb, mais en fait, c'est pas bien uniquement sûr à cette plateforme qu'on s'en prend finalement. On s'en prend.
Mais
à
comme
tout
elle est leader,
ensemble.
C'est elle qui prend.
Elle est leader, voilà. C'est elle qui prend effectivement pour les autres. Sachant aussi, on a pas mal de logements qui sont mis sur le marché sur plusieurs plateformes parallèlement. Donc, d'où d'ailleurs une des difficultés de chiffrage.
On va en parler.
Du dispositif. Mais,
ou alors parlons-en maintenant, tenez. On ne sait pas très bien combien de locataires, combien de bailleurs il existe vraiment.
Combien de bailleurs, on ne sait pas très bien. Combien de logements véritablement mis sur le marché, on commence à savoir un peu mieux parce qu'il y a une obligation d'enregistrement, pas partout, mais qui progressivement se généralise. Mais en revanche, ce qu'on sait très mal, c'est différencier ce qui est la location temporaire de votre résidence principale quand vous partez en vacances ou en week-end, du logement qui est intégralement consacré à cette location de courte durée. Et c'est à cela qu'on s'en prend finalement. Finalement, la location temporaire de la résidence principale, finalement,
oui,
c'est
pour gagner quelques centaines d'euros
pour
l'année,
les gens qui viennent passer un week-end ou une semaine dans un lieu touristique. Mais les logements mis sur le marché de façon permanente, ils sont en fait tout simplement soustraits à l'offre générale. Et un des éléments très, très intéressants qui était dit aussi bien sur l'exemple basque que sur l'exemple de Saint-Malo, c'est la mobilisation citoyenne. On est très nombreux à parler de crise du logement, de problème du logement dans ce pays depuis de très nombreuses années, avec toujours un peu une surprise, c'est que le sujet a du mal à entrer dans le débat politique. On a une mobilisation citoyenne qui a beaucoup contribué, beaucoup aidé.
On l'a vu à l'instant avec cette association de Biarritz et du Pays Basque en général. Cette loi dite anti-Airbnb, elle impose donc aux propriétaires un nombre limité de nuitées dans l'année. Je lisais ces derniers jours le témoignage du propriétaire parisien dans le quartier, alors on va dire très touristique du Marais, des propriétaires qui disent être prêts à prendre le risque de dépasser le quota, comme s'il y avait peu de risques à se faire rattraper à Paris. La sanction de 15 000 euros, elle n'est pas assez dissuasive. Il y a encore un peu, si ce n'est de la fraude, en tout cas des gens qui dépassent les quotas sans vergogne.
Alors quand on est sanctionné, ça coûte, hein, mais le problème c'est que beaucoup ne le sont pas et que la vérification, le contrôle est extraordinairement coûteux.
La ville de Paris dispose d'une trentaine d'agents, je crois, pour aller vérifier les dizaines de milliers de logements.
Ce qui est fort peu. Ouais. Donc c'est le contrôle est extrêmement coûteux et du coup beaucoup de propriétaires pensent peut-être à terme à tort, mais en tout cas pour l'instant encore qu'ils seront impunis.
Pour l'urbaniste que vous êtes, faut-il continuer de faire de Paris une capitale toujours plus tournée vers le tourisme ou bien faut-il au contraire rendre aux Parisiens les locations d'appartements?
C'est le tourisme, c'est pas que le tourisme, c'est le tourisme, c'est la vie économique, c'est tout un ensemble de choses.
Ce sont les écoles dans les quartiers.
Ce sont les écoles, c'est l'ensemble de ce qu'est la vie d'une ville comme Paris. Et quand je dis Paris, je pense Grand Paris, d'ailleurs, parce que
les maisons autour de Paris sont assez prisées.
Ben oui, et que progressivement, cette location touristique, elle commence à grignoter un peu dans la première couronne. L'avenue du Grand Paris Express, nouvelle infrastructure de transport qui va beaucoup mieux desservir la première couronne va aussi probablement contribuer à ouvrir une partie de ces communes à la location touristique.
On avait beaucoup parlé de location saisonnière touristique par les plateformes au moment des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce qu'on a fait un bilan des locations à Paris ? Ça a marché ?
Pas à ma connaissance, et ça a marché pas tant que ça, d'après les éléments un peu disparates dont on dispose.
On disait parfois que les prix avaient explosé de façon exponentielle.
Et la demande n'était probablement pas au niveau de cette offre faramineuse qui a été proposée, pour laquelle, effectivement, il va falloir faire un bilan, parce qu'une des questions qui se pose, c'est est-ce que, après les Jeux Olympiques, on va avoir un retour à la normale, certainement pas, mais à un repli d'une partie de cette location touristique, comme on avait eu un repli assez considérable au moment de la crise sanitaire du Covid, sans touristes...
On a du mal, effectivement.
On a du mal, et du coup, on a quand même des logements qui étaient revenus sur le marché de la location de droit commun.
On a parlé ce soir de Saint-Malo, de Biarritz, de Paris. Quelles sont les villes ou les régions les plus concernées par la location, comme ça, saisonnière, sur les plateformes et... Ça concerne toutes les villes ?
Ouais, ça concerne toutes les villes attractives d'une façon ou d'une autre. Touristique et pas seulement touristique. Hein. Il faut aussi savoir qu'on a des étudiants qui se logent dans du Airbnb. On a des salariés en mobilité courte qui vont sur des chantiers ou d'autres. Parce que derrière ce vice, il y a la vertu d'avoir une offre souple, facile d'accès, hors de prix. Mais souple et facile d'accès dans un contexte dans lequel l'offre ordinaire, elle continue de se rétracter.
Yael Gauze, je me tourne vers vous pour le volet politique, pour redonner donc un espace aux habitants locaux qui cherchent un logement sur une longue durée. Et il a donc fallu rogner un peu les ailes de ces plateformes de meublés touristiques, et c'est passé par une loi adoptée en novembre dernier, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain.
Bah oui, près de 18 mois, Eric, entre le dépôt du texte en avril 2023 et son adoption le 7 novembre. Ça faisait pourtant des années que les élus locaux se plaignaient d'avoir perdu le contrôle, on en parlait, 26% de résidences secondaires à Saint-Malo, overdose d'annonces à Biarritz ou à La Rochelle, jusqu'au bateau dans le port, marre de voir des quartiers entiers perdre leur âme, ces poubelles jetées dans les rues de la Madeleine dans la métropole lilloise.
On voit sur certaines rues de la commune des sacs de déchets ménagers qui sont là alors qu'ils ne devraient pas y figurer. Et puis quand on vient occuper un meublé de tourisme sur une période assez courte et qu'on n'est pas chez soi, on s'autorise ce qu'on s'autorise pas d'ailleurs quand on est chez soi.
Le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, d'hiver droite au micro d'ici Nord le 23 mai 2024. D'hiver droite, mais peu importe l'étiquette, dans ce chantier transpartisan, stoppé par la dissolution et repris à l'automne jusqu'à son adoption en novembre. Un texte porté en même temps par la députée Renaissance du Finistère, Anaïg Lemeur, et son collègue basque, le socialiste Iñaki Etxaniz.
Certains définissent notre combat comme celui de David face à Goliath. Notre force fut d'être accompagnés partout en France. Nous avons su dépasser nos différends politiques au profit de l'intérêt général.
En pleine crise du logement et face à l'augmentation explosive du nombre de meublés de tourisme, passé de 300 000 à 1,2 million en 8 ans, ce texte, nous le devions à toutes celles et ceux qui se mobilisent depuis des années en faveur de l'habitat permanent.
Elle est donc nécessaire, cette loi, mais elle permet aussi quoi précisément ?
On va le demander à François Astorgue, le maire d'Annecy.
Vous apercevez derrière moi la vieille ville. Pourquoi j'ai voulu être ici ? Parce que j'aurai la possibilité de déterminer des quotas par quartier et donc mieux répartir les meublés de tourisme sur l'ensemble de la ville plutôt qu'ils soient concentrés principalement, pour ne pas dire uniquement, en vieille ville.
On se résume, avant la loi, c'était un peu la jungle. Seules les grandes villes de plus de 200 000 habitants avaient leur mot à dire. Désormais, n'importe quelle commune peut, après délibération, abaisser le nombre maximal de jours de location par an à 90 au lieu de 120. Le droit aussi de fixer des quotas dans tel ou tel secteur d'une ville pour éviter le trop-plein de meublés touristiques, comme dans le Vieux-Nice par exemple. Et surtout, pour éviter que des immeubles entiers ne soient loués en courte durée par un même propriétaire, l'obligation, et elle découle cette obligation d'une réglementation européenne, d'immatriculer, d'enregistrer auprès de la mairie le bien mis en location.
Alors au final, cette loi, elle a été adoptée par 168 voix contre 54. Donc le consensus n'est pas total.
À chaque étape, Éric, de l'examen du texte, les députés RN ont tenté de bloquer, reprenant les mêmes éléments de langage que la plateforme Airbnb.
Et bien encore une fois de plus, la gauche s'attaque aux petits propriétaires et aux familles qui n'ont pas les moyens de supporter une énième hausse fiscale. C'est une manœuvre pour imposer de nouvelles taxes et faire payer ceux qui cherchent le plus souvent à louer leur logement pour faire face aux charges qui explosent.
Le député RN Alexis Joly. Et de fait, le business est moins juteux, mais on le rappelle, c'est pour aider à sortir de la crise du logement. D'ailleurs, c'est encore l'une des limites de cette loi. Les rapporteurs eux-mêmes le disent, hein, il faut aller plus loin. Les abattements ont été revus, mais la fiscalité reste dissuasive pour le propriétaire qui prend le risque, lui, de louer sur la longue durée, plus d'un an.
Et merci Yaël. Je me retourne vers vous. Le but de cette loi sur les meublés touristiques, c'est aussi de rendre les locations de courte durée moins intéressantes financièrement que dans un hôtel ?
Oui, c'était d'égaliser le régime fiscal entre la location touristique et la location de droit commun de longue durée. Parce qu'elle était extraordinairement différente et elle était beaucoup plus favorable à la location de courte durée que à la location de droit commun, ce qui a sans doute eu à certaines époques un sens pour le développement des chambres d'hôtes, des gîtes ruraux, etc. Mais qui, avec le développement de la location touristique telle qu'on la connaît aujourd'hui, commençait à poser un problème majeur. C'est aussi égaliser le régime de la performance énergétique. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une interdiction de louer dans le droit commun les passoires énergétiques qui va progressivement s'étendre. Ça n'était pas le cas.
2034, je crois.
2034 pour les logements E. Hein, mais les G, c'est le cas aujourd'hui. Quoi. Et ça n'était pas le cas pour la location touristique. Donc, il y a une égalisation des régimes. Mais malheureusement, compte tenu des différentiels de loyer, des différentiels de charges, de rentabilité pour le propriétaire, ça va évidemment dans le bon sens. Mais j'ai peur que l'effet n'en soit pas massif.
Cette loi, elle implique aussi aux bailleurs de facturer la TVA. Ça risque de se ressentir désormais sur les locations des saisonnières.
Ça va augmenter de 10%, sauf si le propriétaire prend pour sa part une part du taux de TVA. Mais c'est une TVA à 10%. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas une TVA à 20%. Hein. C'est déjà une TVA à taux réduit. Il y avait déjà les taxes de séjour là, sur lesquelles les plateformes se sont bien alignées pour prélever les taxes de séjour. Mais là non plus, l'impact sur le différentiel de rentabilité, on peut craindre qu'il ne soit pas suffisant.
Et puis c'est aussi de la paperasse pour les propriétaires que de facturer cette TVA, et ça peut aussi parfois être dissuasif. Merci d'être venu en parler ce soir chez nous, Jean-Claude Drian. Je rappelle que vous êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris, Université Paris-Est Créteil. Merci beaucoup.
Merci
d'avoir éclairé nos lanternes. Une semaine en France va continuer avec le multiplex du réseau ici Ex-France Bleu, comme je l'imagine, en cette Saint-Valentin. Voici quelques mots d'amour.
Qui sera l'homme que j'aime. Et quand je l'imagine, il...
1972, comme le je l'imagine. C'était Véronique Sanson.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité d'ici et d'ailleurs à présent. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ici Occitanie, ici Poitou, ici Pays de Savoie. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Benjamin Bourgine, ici Occitanie. Un nouveau projet routier a obtenu son feu vert cette semaine, non pas à propos du controversé A69 entre Toulouse et Castres. Il s'agit d'une autre jonction autoroutière dans la métropole de Toulouse, mais celle-ci aussi fait polémique.
Ah oui, c'est pas simple de faire des routes en 2025 entre la nécessité d'accompagner le développement des villes et l'obligation de préserver environnement et biodiversité. Le projet en question, autorisé par la commission d'enquête, mais qui maintenant doit attendre encore un arrêté du préfet, c'est donc un échangeur, une jonction qui permettra d'entrer ou de sortir du périph de Toulouse et aussi de le franchir. On parle de plusieurs communes concernées, Balmas, Saint-Aurens, Quinte-Fonds-Segrève, au sud-est de la grande métropole toulousaine. Un secteur qui va accueillir 30 000 nouveaux habitants selon les projections des élus, qui disent aussi attention, au quotidien, ces populations devront circuler entre Toulouse et leur domicile. Il faut donc leur donner un nouvel accès plutôt que de venir engorger des axes déjà très saturés le matin.
Et une bretelle en plus, eh bien ça veut dire des terrains artificialisés.
Et oui, pour 95 millions d'euros, c'est le budget. Les opposants disent que c'est quand même très cher. On va dépenser cet argent en bitume sur des secteurs aujourd'hui naturels, des zones humides, là où les agglomérations devraient faire attention à ne pas tout grignoter justement. Il y aura des compensations naturelles, dit notamment le maire de Balmas. Des compensations et aussi des solutions pour les vélos, piétons et bus. Et c'est justement ce que préconise la commission d'enquête sur ce projet. Bien faire évidemment une nouvelle route, mais aussi anticiper toutes les connexions actuelles et futures. Penser notamment aux prochaines lignes de bus ou même les futurs RER métropolitains après 2030. Le but, en fait, c'est de savoir maintenant ce qui sera utile d'ici 10 ou 15 ans.
Et de Toulouse, nous partons maintenant dans le Poitou. William Giraud, la centrale EDF de Civaux, va fabriquer du tritium à des fins militaires.
Oui, c'est une première pour EDF. Alors déjà, qu'est-ce que le tritium ? C'est un élément radioactif issu de l'hydrogène sous sa forme gazeuse. Il est très convoité car c'est un élément indispensable à la fabrication des bombes nucléaires. Un gaz difficile à conserver, il se réduit de moitié tous les 12 ans et disparaît totalement au bout d'un siècle, d'où la nécessité d'en disposer en quantité suffisante pour garantir la pérennité de la dissuasion française. Dans les années 60, deux réacteurs spécifiques avaient été construits dans le Gard pour alimenter les besoins de l'armée. Deux installations qui ont fermé leurs portes en 2009. Cette fois, le gouvernement a décidé de s'associer à une centrale d'EDF et c'est donc Civaux dans la Vienne, la plus récente du parc, qui a été retenue. Alors, vous vous posez peut-être la question, comment la production aura-t-elle lieu sur place ? Eh bien, à partir d'avril prochain, l'armée française va profiter d'une maintenance pour introduire des grappes de lithium dans le cœur du réacteur, des grappes qui vont être irradiées pendant 14 mois. Lors d'un nouvel arrêt, elles seront ensuite extraites, puis envoyées vers un laboratoire en Bourgogne qui aura pour mission de récupérer le gaz de tritium. Ces tests vont durer 3 ans. L'objectif, c'est qu'à partir de 2029, le gaz obtenu alimente pour de bon les ogives nucléaires de l'armée française.
Merci pour ces explications. Le lithium d'un côté, le tritium de l'autre à la centrale EDF de Civaux. Merci William. Mélanie Tournard, ici, Pays de Savoie. On va reparler de la Belle Étoile, cet ancien centre de redressement situé à Mercury, près d'Albertville. Eh bien, cet ancien centre fait l'objet d'un film documentaire sorti cette semaine.
Oui, un film projeté au cinéma d'Albertville hier, hein, pour la première fois.
à 6 km seulement de ce centre de redressement privé tenu par l'abbé Garin entre 1950 et 1970, où des enfants ont été placés pour la plupart par l'État, par la DAS. Dédé, Michel, Daniel ou encore Gérard ont grandi sous la même étoile, oui, mais elle n'était ni bonne ni belle. 60 ans après, devant une salle de cinéma pleine à craquer, hein, il détaille les violences quotidiennes, les privations d'eau, de nourriture, les claques à faire tomber par terre, à perforer le tympan, les coups de bâton qui brisent les os, les marches forcées parfois nues dans la neige, les abus sexuels aussi commis par des religieux, a le courage de raconter Daniel. Alors dans le public, les langues aussi se délient. Michel, ancien de Mercury, se lève et trouve la force de parler des agressions sexuelles la nuit, l'antre de l'enfer, comme il dit. À chaque projection, de nouveaux témoignages. Libérer la parole, c'est bien le but de ce documentaire, hein, explique la réalisatrice Clémence Davigo. Et Daniel l'exprime d'ailleurs, ce film l'a libéré. Plusieurs victimes se sont rapprochées de la cellule d'écoute, hein, des diocèses de Savoie. Une cérémonie religieuse mémorielle a même été organisée en l'église de Mercury en novembre dernier. Mais aujourd'hui, tous attendent encore une reconnaissance de l'État et ils veulent une plaque sur le site en mémoire de ces enfants marqués à vie.
Eh bien, merci à tous les trois, le réseau ici, dans un instant, le journal de 19h.